Tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable. Juridiction.
Convocation.
Assignation.
La procureur.
Amiable.
Constitution.
Juridiction.
Signification.
Procuration.
Incompétence.
Amiable. Signalement.
Convocation.
Relax.
Abusif.
Procureur.
Usucapitation.
Flagrant.
Constitution.
Amphithéotique.
Procureur.
Et juridiction.
Assignation.
Usucapitation.
Requête. Récitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonjour,
bonjour
à nouveau.
Bonjour.
Alors, c'est encore une nouvelle édition du fil d'Ariane pour la rentrée. On va vous parler effectivement de comment devient-on parent. Sachant que c'est une émission qu'on va faire un petit peu en deux parties. Enfin, c'est une émission sur la filiation en deux parties. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment devient-on parent. C'est-à-dire qu'on va parler surtout des questions de reconnaissance et d'action en recherche de paternité. Et on fera une autre émission plus tard sur tout ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation, la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, et l'adoption. Donc aujourd'hui, on va vous parler des façons dont on établit le lien de filiation avec un enfant qui est déjà là, avec à la fois le côté reconnaissance, ça veut dire quand on reconnaît qu'on est le parent d'un enfant, et le cas où finalement un des parents, et c'est souvent le père, qui ne reconnaît pas qu'il est le père d'un enfant et qui à ce moment-là, il faut établir judiciairement la filiation par ce qu'on appelle une action en recherche de paternité. Juste en introduction pour vous préciser que ce domaine-là de la filiation, c'est un domaine qui est un peu compliqué même pour nous les juristes, donc on va essayer d'aller un peu au plus pratique et on va essayer d'évoquer un peu les situations concrètes et courantes qu'on peut trouver et qui peuvent concerner quand même pas mal de gens, notamment toute la question de la reconnaissance, parce que ça concerne un peu tous les gens qui sont amenés à devenir parents. Donc voilà, et d'abord on va parler donc de la reconnaissance.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, s'agissant de la reconnaissance, déjà une petite précision, parce que c'est une question qu'on s'est posée au moment où on préparait l'émission. Quand on établit la filiation d'un enfant par la reconnaissance, donc l'inscription sur l'état civil des parents, ça peut être qu'un père et une mère. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, par exemple, avoir une mère qui a accouché et une seconde femme qui viendrait reconnaître l'enfant. Aujourd'hui, c'est pas... C'est pas explicitement interdit par le code civil, mais en tout cas, c'est pas reconnu par la justice, donc ça, ce serait pas reçu par un office d'état civil. Donc, juste pour préciser, donc quand on parle de père et mère, c'est pas une volonté pour nous d'exclure d'autres formes de parentalité, mais c'est le texte tel qu'il est écrit aujourd'hui. Donc, parfois, la reconnaissance n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que il suffit que la mention du parent suffit à elle-même à établir la filiation avec l'enfant. C'est le cas notamment quand à l'égard de la mère, c'est-à-dire que le fait qu'elle se désigne comme la personne qui a accouché de l'enfant suffit à ce que le lien de filiation soit reconnu. Donc, une mère n'a plus besoin de reconnaître son enfant quand elle a accouché, qu'elle est indiquée sur l'acte d'état civil. Et à l'égard du père, si l'homme qui est indiqué sur l'acte d'état civil est le mari de la mère, il y a une présomption de paternité, donc il n'a pas besoin de reconnaître l'enfant non plus. Donc c'est dans ces deux cas-là, il n'y a pas besoin de reconnaître l'enfant à partir du moment où le nom du parent est indiqué sur l'acte d'état civil. Il n'y a pas besoin. Donc le cas le plus fréquent, c'est effectivement pour la mère qui a accouché et le mari de la mère si c'est le père de l'enfant. S'il n'apparaît pas sur l'acte de naissance, par contre, il n'y a pas de présomption de paternité. C'est-à-dire que si je suis mariée, que j'accouche et que j'indique pas qui est le père de l'enfant ou que j'indique un autre homme, à ce moment-là, moi, même si je suis mariée, c'est pas le mari qui est considéré comme le père.
Et ça marche que pour le mariage ou pour le PACS, c'est pareil?
Non, ça marche que pour le mariage. C'est vraiment la question. C'est vraiment, il y a pas de, le PACS donne pas de droit par rapport à ça. Donc dans les autres cas, concubinage, PACS, il faut reconnaître l'enfant. Donc là, du coup, on va parler du père, puisque par définition, alors à moins qu'elle ne soit pas indiquée sur l'acte de naissance, la mère n'aura pas eu besoin de faire la reconnaissance. Donc on peut faire reconnaître l'enfant à trois moments.
Alors, premier moment, avant la naissance?
Oui, c'est tout à fait possible. Donc on peut reconnaître l'enfant avant la naissance. Il suffit pour ça de se présenter dans n'importe quelle mairie. En général, c'est la mairie du domicile, mais on peut le faire dans n'importe quelle mairie avec une pièce d'identité et indiquer qu'à l'avance, on reconnaît l'enfant que porte madame ou monsieur. Enfin, madame d'ailleurs, parce que.
Pas encore.
Ça viendra. Mais sachant que c'est. Enfin, la reconnaissance, ça permet. Enfin, une fois que c'est fait, ça veut dire qu'au moment de la déclaration de naissance, l'acte sera déjà fait, il n'y aura pas besoin d'y retourner. Simplement, il y a une mention sur l'acte de reconnaissance qui indique que, alors je ne sais plus quelle est la formule, parce que je vous avouerai que c'est un peu, même pour moi, j'ai trouvé ça un peu tordu, qu'en fait, c'est une filiation qui, la reconnaissance est divisible à l'égard de la personne. Autrement dit, s'il y a deux hommes qui reconnaissent le même enfant, c'est vrai avant et c'est vrai après, ben du coup, ils sont obligés d'enregistrer la reconnaissance et après, ça m'ira devant le juge. Mais donc, il y a une formule en bas un peu alambiquée qui dit simplement que, ok, tu reconnais l'enfant, mais ça ne veut pas dire que ce sera établi pour la suite.
Deuxième moment, donc au moment de la naissance de l'enfant.
Oui, au moment de la naissance, puisqu'il y a une démarche à faire, alors qui, en général, dans les grosses maternités, est faite par les sages-femmes ou par les médecins, ce qui est la déclaration de naissance. Et en fait, on peut aussi, si la reconnaissance n'a pas été faite avant la naissance, on peut aussi faire à un moment de la déclaration, faire la reconnaissance en même temps. Donc à ce moment-là, simplement, il faut le faire dans les 3 jours qui suivent la naissance. C'est le père de l'enfant qui va reconnaître à la mairie, qui va déclarer la naissance et par la même occasion faire la reconnaissance. Dans les deux cas, quand la reconnaissance est faite avant ou au moment de la naissance, sur l'acte d'état civil, c'est directement mentionné que l'enfant est l'enfant de monsieur un tel et madame un tel. Ce qui n'est pas le cas dans la troisième hypothèse.
La troisième hypothèse, justement, après la déclaration de naissance, est-ce que le père peut encore reconnaître l'enfant ?
Oui, il peut le faire. À tout moment, simplement, il y aura des conséquences différentes, puisque ce sera du coup mentionné en marge de l'acte d'état civil, donc on saura que la reconnaissance est postérieure, et ça a des conséquences en matière notamment de nom de famille, sur le choix du nom de famille et sur l'autorité parentale. Après, pardon, j'ai rien dit. Mais oui, donc oui, c'est tout à fait possible.
Et alors, il y a un cas qui est particulier aussi, c'est lors de l'accouchement sous X. Donc, on autorise une femme, une mère, qui elle peut demander que son identité soit préservée. Dans ce cas-là, elle a 2 mois pour se rétracter. Et c'est ce même délai au cours duquel le père peut également reconnaître un enfant. En fait, on considère que c'est un délai de 2 mois parce qu'au bout de 2 mois, après 2 mois, l'enfant devient pupille de l'État. Il est recueilli par l'aide sociale à l'enfance et on considère qu'il est adoptable. À partir du moment que l'enfant devient adoptable, ni le père ni la mère ne peut faire de reconnaissance a posteriori. Il n'y a plus, le délai de rétractation est dépassé. Il y a eu une exception, il y a eu un cas dans la justice, dont d'ailleurs on a un petit peu parlé, même dans les médias je crois, c'était en 2006, où un père voulait reconnaître cet enfant, en disant « mais voilà, enfin la mère a voulu coucher sous X, mais moi je veux reconnaître cet enfant ». Et on a reconnu son droit de reconnaître son enfant au-delà du délai de 2 mois, mais parce qu'il avait fait une reconnaissance prénatale. Et parce qu'il avait fait une reconnaissance prénatale, on avait considéré que son droit... Enfin, je passe un peu les détails, mais voilà. On avait considéré qu'il pouvait reconnaître son enfant au-delà du délai de 2 mois. Mais sinon, on est vraiment... Il faut penser au délai de 2 mois.
Du coup, on peut recommander la reconnaissance prénatale quand même, quand on sait qu'on va être le père d'un enfant. Vaut mieux faire cette démarche, même si elle va devoir être prolongée par un autre acte au moment de la naissance. C'est quelque chose qui est quand même qui est important.
Bah, disons que si un père veut reconnaître son enfant... dont la mère décide de pas donner, enfin dont la mère décide de pas donner son identité, dans tous les cas, il a intérêt à être très réactif et de le reconnaître prénatalement et même au moment de la naissance, parce que le délai de 2 mois c'est quand même très court.
Alors, on a vu comment on faisait la reconnaissance, notamment après la naissance de l'enfant, mais est-ce qu'il y a un délai pour le faire justement après la naissance ?
Non, il n'y a pas de délai. Enfin, le principe c'est qu'il n'y a pas de délai pour faire une reconnaissance. Après, c'est toujours mieux, je pense, de reconnaître son enfant dans les 3 jours à compter de la naissance. Mais s'il n'y a pas de délai, il y a quand même des conséquences. Des conséquences par rapport au choix du nom de famille de l'enfant et des conséquences également par rapport à l'autorité parentale. Alors, concernant le nom de famille, il y a plusieurs cas de figure et le code civil est... détail assez bien, mais je vais pas lire l'article. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si les parents établissent ensemble la filiation, ils peuvent choisir le nom de leur enfant. mais il faut qu'ils établissent le lien de filiation ensemble et de façon simultanée. S'il n'y a pas de déclaration conjointe, alors là, j'ai trouvé ça presque amusant, c'est le premier qui va établir le lien de filiation. Donc, le premier peut donner le nom de famille, le deuxième ne peut plus. Si les parents décident de tous les deux d'établir le lien de filiation de façon simultanée mais pas conjointe, c'est l'enfant prend le nom du père. Alors je pense que c'est un cas de figure qui est assez rare, parce que en fait simultanée mais pas conjointe, ça voudrait dire que le même jour ils vont tous les deux déclarer reconnaître l'enfant, et donc dans ces cas-là c'est le nom du père. Et en cas de désaccord, l'enfant peut porter les deux noms. Enfin bon, tout ça c'est assez technique, mais voilà. En tout cas, il y a des conséquences sur le choix du nom de famille. Et par rapport à l'autorité parentale, il faut savoir que le principe, c'est que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Ça, on l'avait vu dans les émissions d'ailleurs précédentes. Le père et la mère exercent autorité parentale sur l'enfant. Mais si la filiation est établie plus d'un an après la naissance de l'enfant, dans ces cas-là, c'est le parent qui a déclaré l'enfant, enfin qui a reconnu l'enfant, qui a l'autorité parentale exclusive. Donc ça a quand même des conséquences pour le parent qui ne reconnaît pas son enfant. Le seul moyen dans ces cas-là pour obtenir une autorité parentale, pour donc le parent qui l'a pas, c'est une déclaration conjointe auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance, où il faut obtenir une décision du juge aux affaires familiales. Mais donc voilà, ça c'est une conséquence qui est quand même assez importante.
Ouais, parce que soit les parents sont d'accord pour faire cette déclaration, mais ils sont pas d'accord, ça veut dire que l'autre parent, généralement c'est quand même le père, il doit faire une procédure devant le juge d'affaires familiales, et on retombe un peu sur les procédures qu'on avait évoquées quand on avait fait l'émission sur la séparation des parents.
Exactement.
Donc c'est une procédure qui est quand même un peu longue et un peu lourde, ça veut dire que c'est potentiellement un parent qui pendant des mois va pas avoir l'exercice de l'autorité parentale, donc c'est quand même pas anodin.
J'avais une petite question, pardon, mais concernant le nom. Et moi, il me semble que si ça vient dans cette histoire de un an avant les un an de l'enfant, c'est possible pour la deuxième personne, si elle le reconnaît dans cette année-là, d'accoler le deuxième nom de famille à l'enfant.
Oui.
Alors,
on en parlera plus tard, c'est ça?
Bah non, c'était la réponse. Non. Vas-y, non, c'est vas-y, pas. Parce que j'ai le texte, je veux juste le temps de le relire pour vérifier, mais.
Il est un peu compliqué, c'est l'article, si vous avez envie d'aller lire, c'est l'article 311-21 du Code civil, c'est une joie à lire. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué ces histoires-là, mais il y a tellement de cas de figure qui se présentent.
Mais en tout cas, le Code civil prévoit, enfin décline les différentes hypothèses. Et pour le coup,
mais il n'y a pas l'histoire du délai d'un an pour le nom. En fait, l'histoire du délai d'un an, c'est vraiment sur l'exercice de l'autorité parentale. C'est pas sur le nom de famille. Sachant que nous, quand on a préparé l'émission, on s'est reposé la question parce que on avait effectivement en tête cette histoire du délai d'un an. Mais c'est uniquement pour ce problème d'exercice de l'autorité parentale. Sur le nom de famille, c'est encore autre chose. Du coup,
c'est bon. Je crois que j'ai réussi à trouver le texte.
L'alinéa en plus, parce que le texte est long.
En fait, quand justement il y a un deuxième lien de filiation, donc il y a une reconnaissance a posteriori durant la tant que l'enfant est mineur, les parents peuvent par déclaration conjointe, donc s'ils sont d'accord, substituer le nom de famille du parent, changer le nom qui avait été initialement établi, soit accoler les deux noms, c'est-à-dire remplacer le nom du père, enfin le nom de la mère par celui du père, soit accoler les deux noms dans la limite d'un nom de famille par chacun d'eux, donc les règles habituelles. Et simplement, c'est un changement de nom, donc c'est mentionné en marge de l'acte de naissance, donc on voit qu'il a été modifié en cours de route. Et si l'enfant a plus de 13 ans, il faut qu'il y ait l'accord qui soit recueilli. Mais pour le coup, c'est pas un délai d'un an. C'est possible tant que l'enfant est mineur.
Mais par contre, c'est bien une déclaration conjointe. Donc c'est toujours, il faut que les deux parents soient d'accord. Si les deux parents sont pas d'accord, là par contre, tu peux plus rien faire.
Eh ben, d'expérience, je peux vous dire qu'à l'état civil, c'est pour une reconnaissance d'un deuxième enfant, bref, la personne qui est allée toute seule, l'officier d'état civil lui demande si elle veut accoler son nom de famille ou pas.
Alors,
je me demande même si elle n'a pas demandé si c'était possible de remplacer les noms. Quoi.
Juste, je ne veux pas critiquer les services d'état civil, mais quand même, moi, ça m'est arrivé dans des dossiers de voir des choses bizarres qui ont été notées par des officiers d'état civil. Juste un exemple comme ça, moi, j'ai une dame qui s'est mariée à Las Vegas. Le mariage n'a jamais été enregistré aux États-Unis, il n'a pas été transcrit en France ni rien. Quand elle a accouché, le père a dit je suis le mari de madame, donc je suis le père. L'officier d'état civil a noté madame, mariée, etc. Du coup, le lien de filiation a été établi comme ça, il n'y a pas eu de reconnaissance, alors qu'en fait, le mariage n'était pas valable, il n'a pas été enregistré là-bas, il n'a pas été transcrit ici. En fait, elle n'était pas vraiment mariée. Et on s'est retrouvé à faire une procédure de divorce. Parce qu'on, mais c'était un truc complètement un peu fou, parce que du coup, on ne pouvait pas non plus dire que le mariage était vraiment valable. Mais du coup, l'acte de naissance du gamin disait que les parents étaient mariés. Enfin bref, c'était. Et franchement, c'est, à mon sens, l'officier d'état civil n'aurait jamais dû écrire ça à ce moment-là. Donc, j'ai mes quelques réserves sur parfois ce qui peut être fait au niveau de l'état civil, alors que c'est quand même grave et qu'ils ont des instructions, etc. Si on regarde, c'est l'Institut, l'instruction générale sur registre d'état civil, c'est un texte pas possible de plusieurs tomes. Il y a quand même des choses hyper précises, mais parfois, il y a des choses un peu surprenantes qu'on peut voir.
Peut-être que dans ce cas-là aussi, il y a peut-être que si c'est un deuxième enfant, si le premier enfant avait les deux noms, c'est possible qu'il y ait, aussi cette possibilité.
Il y en avait qu'un.
Là aussi, c'est fou parce qu'en principe, tous les enfants doivent porter le même
nom. Obligation. Ouais.
Donc, par contre, ça avait comme conséquence de modifier le nom du premier enfant.
Il n'y a pas de souci, on n'a qu'à faire. Non, mais voilà, après, c'est aussi une possibilité. Nous, le texte, il passe ça. Mais après,
Du coup, on a vu comment on fait pour reconnaître un enfant. On a vu qu'il suffit d'aller à la mairie avec une carte d'identité et dire je suis le père de cet enfant. Désolé, je fais un peu des raccourcis à chaque fois. Je dis le père parce que c'est quand même la situation qui se présente le plus. Mais alors du coup, est-ce qu'en fait n'importe quel père peut reconnaître n'importe quel enfant ?
Bah, grosso modo, oui.
Alors c'est un peu flippant.
C'est-à-dire que en fait, on peut reconnaître un enfant qui n'est pas le sien. Et a priori, il n'y a pas de poursuite pénale si une personne décide de reconnaître son enfant. Cependant, il faut quand même savoir qu'il y a toujours une action en contestation de paternité qui est possible. Donc un homme peut reconnaître un enfant, mais le lien de filiation pourra être remis en question. Un point notamment sur... On a dit qu'il n'y avait pas de poursuite pénale dans ce cas-là. Cependant, les textes prévoient quand même une peine de 5 ans de prison pour les personnes qui reconnaissent un lien de filiation pour aider à l'obtention d'un titre de séjour ou pour la nationalité française. 5 ans de prison, 15 000 euros d'amende. Nous, on rencontre quand même souvent des cas, la préfecture qui conteste le lien de filiation. Souvent c'est en fait conteste l'infiliation du père à l'égard d'un enfant, donc l'enfant devient français et la mère obtient un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il y a beau avoir aucune action de contestation de paternité, que ce soit de la part du procureur ou que ce soit de la part du père, la préfecture, elle, se permet de le contester en disant souvent une suspicion, forte suspicion. Et ça lui suffit à ne pas délivrer ce titre de séjour. Donc ça, c'est assez courant. Après, les cas de poursuite pénale, moi, j'en rencontre pas trop. Ils vont pas sur ce terrain-là, mais parce qu'à la fois, ils savent, vu qu'il n'y a pas d'action de contestation de paternité, ils vont pas au pénal, juste ils refusent un droit au séjour d'une personne qui a le droit.
Et eux ne peuvent pas forcer un test de paternité pour voir si c'est vrai ou pas.
Pas encore. après, si on suit un peu leur je m'arrête là. J'ai pas l'air d'en être hésité.
Alors, du coup, quelles sont les conséquences quand même de la reconnaissance d'un enfant ?
Les conséquences, elles sont importantes parce qu'il y aura des conséquences sur l'autorité parentale, comme on l'a évoqué, des conséquences notamment sur le droit de visite et d'hébergement si les parents se séparent. Lorsque le père a établi sa filiation, il a des droits de visite et d'hébergement sur les enfants. Et puis il y a des droits et puis des obligations, des devoirs, des obligations d'entretien.
Alors du coup, là on a parlé de la reconnaissance volontaire. On va parler maintenant de l'établissement judiciaire de la filiation.
Philippe d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, établissement judiciaire de la filiation, ça fait un peu peur comme ça. En gros, c'est quand on intente un procès pour établir la paternité ou la maternité d'une personne à l'égard d'un enfant, puisque dans certains cas, donc il n'y a pas eu de reconnaissance volontaire. Mais il faut savoir, on ne va pas en parler non plus en détail, mais que dans certains cas, il faut même d'abord contester la paternité d'une autre personne, puisqu'on a pu voir qu'un parent qui n'est pas le parent d'un enfant peut reconnaître un enfant. Et si on veut dire le père, ce n'est pas cette personne, mais c'est une autre personne, il faut d'abord contester le lien de filiation de la première personne. Généralement, on fait ça dans la même procédure. Mais alors, du coup, dans ce procès, qui agit et contre qui ?
Alors, dans ce procès, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une action réservée. L'objectif, on le rappelle, c'est de permettre à un enfant d'établir sa filiation. Donc, on est sur la perspective de l'enfant, en fait. Donc, c'est une action qui est réservée par la loi à des personnes limitativement énumérées. L'enfant, déjà, lui-même, bien sûr. Et du coup, comme un enfant mineur ne peut pas agir en justice tout seul, on a également la mère de l'enfant qui, pendant la minorité de l'enfant, peut également faire cette action, mais parce qu'elle représente donc l'enfant en question. Avec aussi cette particularité dans l'hypothèse où, pendant la minorité de l'enfant, il y aurait des intérêts contradictoires entre la mère et l'enfant. Il existe une procédure pour permettre à ce qu'une personne soit désignée. Son nom, c'est l'administrateur ad hoc. Pour qu'une personne soit désignée donc par le juge pour représenter l'enfant spécifiquement pour la procédure et établir la paternité. Et enfin, dernière hypothèse, c'est dans le cas où l'enfant serait décédé. Les héritiers de l'enfant peuvent également mener cette action, mais c'est toujours la même logique. On considère qu'en fait, ils représentent l'enfant décédé, mais en tout cas, c'est bien toujours du point de vue de l'enfant qu'on se place. Après, sur cette action, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des délais qui sont également encadrés pour le faire. Donc, la mère peut agir parce qu'elle représente l'enfant exclusivement pendant la minorité de l'enfant. À partir du moment où l'enfant est majeur, donc il n'y a plus que lui ou les héritiers qui peuvent agir. Et pour faire une action en justice, cet enfant, il aura seulement 10 ans, donc 10 ans à partir de sa majorité, donc jusqu'à l'âge de 28 ans. Et les héritiers, si l'enfant vient à décéder, donc ont le même délai. Ça s'arrêtera donc 10 ans après la majorité de l'enfant. Juste une petite précision rapidement, puis on va pas développer trop là-dessus, mais c'est qu'il y a des cas où une action n'est pas possible. Premier cas, c'est le cas de l'inceste. L'inceste absolu, donc un inceste père-mère ou frère-sœur. Dans ce cas-là, en fait, il est impossible de faire une action pour établir la paternité. Et également, on en a parlé tout à l'heure, c'est le cas où l'enfant est soit adopté, soit placé en vue d'une adoption. Parce que l'idée, c'est que l'adoption, en fait, va prendre la place de la filiation biologique ou de la filiation établie autrement. Et donc, dans ce cas-là, là également, on ne peut pas faire d'action en justice pour établir la paternité.
Alors du coup, quand on va faire ce procès, on va introduire une action devant le tribunal de grande instance, ce qui veut dire que la représentation par avocat est obligatoire. Donc ça veut dire que si des personnes sont confrontées à ces difficultés, il faut savoir que de toute façon, elles auront besoin d'un avocat, donc elles auront des conseils. Le tribunal qui est compétent, c'est le tribunal du domicile du défendeur, ça veut dire c'est le tribunal du domicile du père présumé. Donc ça veut dire qu'on peut avoir justement des cas où du coup, on est obligé d'aller devant un tribunal qui est assez lointain, pour engager cette action.
Et comment est-ce que va se dérouler la procédure ?
Alors je vais aller rapidement là-dessus parce que c'est peut-être pas le plus intéressant aujourd'hui. Puis comme on disait, il y a un avocat qui va s'en occuper. Mais en gros, on fait délivrer une assignation par un huissier de justice au père présumé. Et ensuite, il y a une procédure qui va se dérouler devant le tribunal de grande instance. C'est une procédure écrite, ça veut dire que tout est développé dans des conclusions écrites avec des pièces justificatives. Et c'est généralement une procédure qui va se dérouler en deux temps, avant et après l'expertise biologique. Ça, on va en parler tout de suite de l'expertise biologique. Avec une particularité donc de cette procédure, c'est qu'elle est quand même communiquée au procureur, même si le procureur ne peut pas engager l'action, vu que ce sont quand même des actions qui sont importantes parce qu'elles touchent à l'état civil. C'est des procédures qui sont communiquées au procureur de la République, et c'est des procédures qui se déroulent en chambre du conseil parce qu'on touche à l'intimité, à la vie privée des gens. Juste sur cette procédure, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est une procédure qui est très longue, et que à Lyon par exemple en ce moment, je pense qu'on en est à 2 ans de procédure. Donc ça veut dire que quand on n'a pas reconnu un enfant ou quand on conteste la paternité, c'est vraiment pas anodin tout ça, parce que le temps de faire établir ce lien de filiation, ça va durer vraiment, vraiment très longtemps.
Ouais. Juste, est-ce que tu veux préciser ce que ça veut dire se dérouler en chambre du conseil ?
Ah pardon, oui, c'est que c'est à huis clos. Ça veut dire que l'audience, elle va pas être en public. Donc c'est comme ça que la procédure se déroule. Mais la question principale, c'est quand même de savoir comment on va prouver la paternité, le lien de filiation avec une autre personne.
Alors sur cette question-là, le Code civil a prévu que la paternité, les éléments qu'on apporte devant le tribunal se font par tout moyen. Par tout moyen, ça veut dire tout ce qui est possible et légal. Donc concrètement, ça va souvent être des témoignages, donc des attestations, des lettres éventuellement entre le père et la mère de l'enfant, ou le père même envers l'enfant, des photos, enfin tout type d'éléments donc qui permettraient d'établir un lien. C'est ce qu'on appelle un faisceau d'éléments, un faisceau d'indices, donc qui viennent apporter suffisamment de raisons de penser que cette personne serait le père de l'enfant. L'expertise génétique, elle est possible, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas automatique, donc on ne peut pas compter exclusivement là-dessus. On ne peut pas se dire, je vais saisir le juge, demander une expertise pour savoir. Il faut en fait d'abord apporter des éléments au juge, de type lettres, témoignages, faisceaux d'indices, qui permettront de convaincre le juge de prononcer une expertise génétique. Parce que la deuxième chose qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a qu'un juge qui peut ordonner une expertise génétique en France, contrairement à d'autres pays, notamment en Europe. En France, donc, il y a seulement un juge qui peut ordonner cette mesure-là. Et deuxième précision aussi, c'est que pour avoir une expertise génétique, il faut l'accord express de la personne concernée. Donc là, en l'occurrence, le père, il faut son accord pour pouvoir procéder à cette expertise. Si le père est décédé, il fallait qu'il ait donné son accord donc de son vivant, sinon l'expertise génétique n'est pas possible. Donc le père est en droit, enfin le père ou la personne qu'on présente comme étant le père est en droit de refuser. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que concrètement, le refus d'une personne sans motif légitime va être interprété par le juge et donc n'empêchera pas, en tout état de cause, que la filiation puisse être rétablie quand même sur la base des faisceaux d'éléments réunis, et puis aussi le refus est parfois pris en compte en tant que tel comme un argument. Dernière aussi précision, c'est que les tests donc génétiques en France pour établir la paternité sont illégaux, considérés comme illégaux, donc ils n'ont pas de valeur. Tout d'abord, dans le cas d'une action en justice, je pense notamment au cas où quelqu'un va faire une demande de test génétique par Internet, puisque ça arrive souvent. Ce test-là n'aura aucune valeur en France, voire même il pourra être considéré comme une infraction pénale, comme un délit, donc puni d'une peine d'1 an d'emprisonnement et d'une amende assez conséquente, dans l'hypothèse où on n'aurait pas recueilli l'accord de la personne vers laquelle on cherche à établir la filiation.
Donc du coup, c'est comme ça qu'on prouve le lien de paternité. Enfin, une fois encore, on ne parle que de paternité, mais c'est le cas le plus fréquent. Ça a des conséquences, évidemment, une fois qu'on établit ce lien de filiation. Et c'est des conséquences qui vont d'ailleurs être débattues dans le cadre de la procédure. Ça veut dire qu'on va retomber sur tout ce qui est lié au fait d'être parent d'un enfant. Ça veut dire qu'on va... Alors, l'exercice de l'autorité parentale, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il est établi un an après ou judiciairement, du coup, la personne à l'égard de laquelle le lien de filiation est reconnu n'a pas l'autorité parentale, mais elle peut demander par la suite ou dans le cas de la procédure à exercer l'autorité parentale. C'est une personne, du coup, un père qui peut exercer un droit de visite et d'hébergement. Alors là, c'est plus des questions qui se posent quand c'est un père qui a voulu établir son lien de paternité à l'égard d'un enfant et pas tellement quand c'est la mère qui a essayé de l'établir. Il peut demander dans ce cadre-là à exercer un droit de visite et d'hébergement. Et il va y avoir aussi la question de la pension alimentaire qui va se poser avec une grande particularité, et ça il faut peut-être attirer l'attention là-dessus, c'est que quand il y a une pension alimentaire qui est fixée par le tribunal de grande instance, quand on a établi judiciairement ce lien de filiation, il faut savoir que si, par exemple, la mère demande la rétroactivité de la pension alimentaire, le père peut être amené à devoir payer la pension alimentaire qu'il aurait dû payer depuis la naissance. Donc ça veut dire que parfois, quand une procédure... Alors déjà, la procédure n'a pas été engagée tout de suite, elle a été engagée quand le gamin avait 5 ans, et qu'après on a une procédure qui a duré à peu près 3 ans, et ben du coup, le père peut se retrouver avec 8 ans de pension alimentaire à payer. C'est important, du coup, juste un petit conseil pratique, même si il faut aller voir un avocat dans ces cas-là, pour quand même vérifier par rapport à votre dossier. Si vous êtes sûr d'être le père d'un enfant, il faut peut-être mieux le reconnaître que d'attendre que toute cette procédure se déroule et que vous retrouviez à payer une pension alimentaire rétroactivement. Je crois qu'on a fini, en fait, on a dû aller un peu vite parce qu'on était à la bourre. Merci.
Eh bien, ce Canu Info touche à sa fin. On va vous laisser avec quelques secondes de bande continue, le temps à Idée Noire de s'installer. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
Au revoir.